Dans l'Apocalypse, chapitre 1, le Seigneur en tant que... je pense que c'est mieux comme ça. Il y a une description merveilleuse, pardon, de l'homme Dieu glorifié, Jésus, qui se tient, et qui se tient debout, qui marche au milieu des églises, accomplissant l'économie de Dieu. Le sujet d'Apocalypse n'est pas concentré sur des grenouilles ou autre chose, mais le centre de l'Apocalypse, c'est Christ, qui doit être le centre de l'administration de Dieu. Puis quand le Seigneur a commencé, excusez-moi, j'entendais pas bien. Ok. Cette fois dans l'Apocalypse, il indique que les saints, dont l'Église précise qui est indiquée, le Seigneur voulait. Ok, dans Apocalypse 2 et 3 sur cette église, cette épître. Sur la base de l'Apocalypse 3, 7, un verset que l'on va étudier un peu dans le détail, nous allons nous ouvrir au Seigneur et nous allons reconnaître que nous avons besoin de le connaître et de faire l'expérience de lui à la manière qui est décrite ici, dans ces versets. Et la deuxième partie du message, c'est le fait de devenir une colonne dans le temple de Dieu. Et ça, c'est le premier aspect des vainqueurs. Les vainqueurs dans Philadelphie, à Philadelphie, qui est l'église recouvrée. Excusez-moi. Et demain, quand on va monter jusqu'au pic, nous allons parvenir à la consommation, le parachèvement de ce que Dieu a prévu au travers des vainqueurs dans l'Église recouvrée. Regardons le verset dans Apocalypse 1:7, je crois qu'il a dit, il me semble. Alors, je vais essayer de vous trouver le verset exactement. Je l'ai. Amen, voici. C'est 2, pardon. Excusez-moi. C'est 2, 7. Celui... Oh, Seigneur Jésus, je ne sais pas où j'en suis. Il est question dans ce verset. Ok, j'y suis. Excusez-moi. Et écrit au messager de l'Église à Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. On va voir ici plusieurs aspects du Seigneur, mais il y aura vraiment un fardeau important quand on passera au sujet de la clé de David. Il a la clé de David. Quand on partagera sur ce sujet, on va se rendre compte que le Seigneur veut que l'on utilise cette clé qui est l'autorité à travers l'Église recouvrée. Et qu'il va ouvrir des portes que personne ne fermera. On viendra à cela, mais là, je vous donne un petit peu une entrée, si vous voulez. Pendant quelques années, dans les années 1980, il y avait des frères à Seattle qui ont prié continuellement pour que le Seigneur... Pardon, il y a un frère qui... Is that okay? We're good? Okay. Amen. Des frères priaient pendant des années pour que le Seigneur ouvre le pays de la Russie, pour que l'Évangile y aille. Et le Seigneur a utilisé cette clé pour ouvrir cette porte de la Russie. Et il a pu entrer dans ce pays. Je vous dis, moi, que le Seigneur veut utiliser cette clé aujourd'hui pour ouvrir le continent d'Europe comme jamais auparavant. Amen. Pays après pays, ville après ville, cœur après cœur. Amen. Amen. Point 1. Dans l'Église recouvrée, nous pouvons faire l'expérience de Christ comme le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Point A. le Seigneur Jésus est le Saint. Par qui l'Église et avec qui l'Église peut être sainte, séparée du monde. Donc, le terme grec traduit par Église, c'est ecclesia, ce qui veut dire sortir de, hein, qui est sorti de. Et ça, c'est ec. Et sia, ça veut dire, l'ecclesia, c'est appelé à sortir. Donc, nous sommes ceux qui ont été appelés à sortir du système mondain. Nous vivons dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Nous sommes vainqueurs du monde. Et nous sommes séparés pour le Seigneur. Et nous allons être saturés par le Seigneur. Dans Actes 3, 14, Pierre a parlé de Christ comme le Saint. Et ce terme « Saint » indique que Jésus, le Nazaréen, était absolument pour Dieu et absolument un avec Dieu. Amen. Il est la seule personne qui a jamais vécu en étant absolument pour Dieu et absolument un avec Dieu. Et en lien avec cela, nous voyons Christ comme l'Holocauste. Et l'Holocauste était considéré par Dieu comme sa nourriture. Et cet Holocauste, cette offrande, était brûlée jusqu'aux cendres. Et c'était pour le plaisir de Dieu. Et ça a beaucoup de sens, ça a une signification importante, que dans le livre du Lévitique, dans les cinq premiers chapitres, nous voyons les offrandes dans leur chronologie. Mais le premier qui est mentionné au chapitre 1, c'est l'Holocauste. Ensuite, il y a l'offrande de fleurs de farine, puis l'offrande pour la paix. Après, c'est l'offrande pour le péché et l'offrande pour les transgressions. Nous, dans notre opinion, on penserait peut-être qu'on a d'abord besoin de Christ comme l'offrande pour le péché et l'offrande pour les transgressions. Parce que c'est notre problème fondamental. Ces choses-là sont notre problème fondamental, et c'est vrai, dans un certain sens. Mais en réalité, le péché qui habite en nous et les transgressions que l'on commet sont le résultat de quelque chose d'autre. Donc, du point de vue de Dieu, l'Holocauste doit d'abord venir. Il doit venir en premier. Pourquoi ? Parce que notre problème fondamental, c'est que nous avons été créés par Dieu, pour Dieu. Mais la situation au sein de tous les êtres humains créés, c'est que personne ne vit pour Dieu. Nous vivons tous pour nous-mêmes. Nous sommes tous égocentriques. Et nous vivons pour nos propres intérêts, ce qui nous intéresse. Donc ça, la source de notre problème, c'est que si nous ne sommes pas pour Dieu, eh bien ça va vraiment endommager notre humanité. Ça va introduire, amener des états intérieurs. Par exemple, nous n'avons pas la paix, pas de paix avec Dieu. Et puis il y a les péchés et le péché. Donc Christ est venu pour résoudre toutes sortes de problèmes grâce à sa mort tout inclusive. Mais le problème principal, aux yeux de Dieu, c'est que nous ne sommes pas pour Dieu, nous ne sommes pas absolument un avec Dieu. Mais Christ, qui est le Saint, le seul Saint, il était et il est cette personne-là. Amen. Toute sa vie, il était cette personne-là. Et à 33 ans, il a terminé son séjour sur terre. Toute sa vie, il était gouverné par la volonté de Dieu. Et à Gethsémané, il a lutté en prière, d'une manière que seul le Père peut vraiment comprendre. Et la lutte, c'était quoi ? C'était ce qui le troublait, c'était la coupe, parce qu'il savait ce qui se trouvait dans cette coupe. Mais il n'était pas gouverné ou dirigé par la coupe, il était gouverné, dirigé par la volonté de Dieu. Père, si c'est possible, que cette coupe soit retirée de moi, que je n'ai pas à la boire. Mais alors même qu'il luttait, qu'il était troublé, il réalisait profondément dans son être que cette souffrance était la volonté de Dieu, du Père, pardon, que pour notre bien, il fallait qu'il boive cette coupe. À ce moment, la volonté de Dieu et la coupe sont devenues une seule chose. Donc, un peu plus tard, dans le jardin, quand il était arrêté, et que Pierre a sorti son épée, et apparemment, il ne savait pas bien utiliser l'épée, hein. Et il a coupé une oreille d'un des gardes. Et Jésus a dit, la coupe que le Père m'a donnée, est-ce que je ne dois pas la boire? Donc cela correspond à la parole de Paul dans Philippiens. Il était obéissant jusqu'à la mort, et la mort à la croix. Il a donc bu cette coupe et il a aussi réparé l'oreille. Voilà ce Christ qui est le Saint et qui est absolument pour Dieu et un avec Dieu. Petit b, selon la dénotation du mot « saint » dans la Bible, il signifie celui qui est absolument à Dieu, pour Dieu et un avec Dieu. Dans toute l'histoire humaine, seul Jésus était cette personne. Remarquez ce qui est noté d'abord ici, en premier. Il n'est pas dit qu'il était en premier et qu'il est absolument pour Dieu, mais à Dieu. Ça me rappelle, de ce qu'a dit Paul dans Éphésiens, au chapitre 5. Non. Il dit quoi? Une personne est morte pour tous, et donc tous sont morts. Un est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, c'est-à-dire nous, ne vivent plus à eux-mêmes ou envers eux-mêmes, mais envers le Seigneur qui est mort et ressuscité. Mais ce n'est pas facile de comprendre. Et on a besoin de l'aide du ministère de certains frères. Vivre pour Dieu, on arrive à comprendre. Mais vivre envers lui, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais ça veut dire que nous ne dirigeons plus nos propres pas. Nous vivons au Seigneur, envers le Seigneur. Ce n'est pas vivre pour le Seigneur. Par exemple, j'ai raté ce qu'il a dit. Oups. Si je venais chez vous, vous pensez peut-être que vous allez vraiment m'aimer si vous me préparez un repas avec du foie de yak. Mais je vous assure, la seule demande quand je vais chez quelqu'un, c'est s'il vous plaît, ne me préparez jamais de foie de yak. J'en ai déjà parlé hier. Hein. Je dis ça pour réconforter la sœur, qu'elle ne se fasse pas de soucis. Oui. Mais la sœur, elle peut dire, mais moi, je te l'ai fait pour toi. C'est pour toi que j'ai préparé ça. Mais si vous connaissiez vraiment mon cœur, vous me prépareriez un repas envers moi et non pas pour moi. Donc, en fait, on regarde au Seigneur pour qu'il dirige tous nos pas. Chacun de nos pas. Et on voit dans 2 Corinthiens chapitre 2, Paul dit que si vous pardonnez, moi aussi je pardonne. Dans la personne de Christ. Mais le mot qui est traduit par personne fait référence au regard, à ce qui est indiqué par son regard. C'est-à-dire que Paul voyait ce qu'indiquait le regard du Seigneur. Voilà ce qu'indique ce terme. Et donc, on agit par rapport à cela. C'est de cette façon que Christ, le Saint, a vécu. Point 2. En tant que le Saint, Christ est illimité, insondable et incomparable. Il est illimité. Il est insondable, incommensurable. Mais Paul explique dans Philippiens 1 que Christ doit être magnifié dans son corps, que ce soit par la vie ou par la mort. Paul ne dit pas simplement que Christ est exprimé, sinon il aurait dit « Christ est exprimé ». Mais il a dit « Christ est magnifié ». Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que Paul, ça veut dire que Paul exprime le Seigneur d'une telle façon que l'on voit que ce Christ est illimité. Il n'a pas de limite, il est insondable. Donc, vous ne pouvez pas non plus me défaire, me vaincre. Je suis peut-être dans les chaînes, vous allez peut-être me moquer, vous allez peut-être même m'emmener à ma mort, mais Christ va être magnifié dans mon corps de manière tout à fait pratique. Vous qui regardez, vous ressentirez que ce n'est pas juste Christ qui vit, mais ce Christ, il est celui qui est riche, qui est incommensurable, qui est illimité, qui est incomparable. Point 3. Le Saint est Christ, le Fils de David, en qui sont rassemblées toutes les miséricordes de Dieu et par qui elles nous sont transmises. Par le fait que le Seigneur paie le troupeau, les brebis, nous le connaissons comme le Saint, le Dieu éternel, Jéhovah, le Créateur des extrémités de la terre. Donc, le Seigneur ne vient pas, ne s'approche pas de nous en disant « Je suis saint, vous avez intérêt à être saint, vous êtes forcé de faire cela ». Si c'était comme ça, nous serions juste dans une religion, ce serait la loi qui nous est imposée, et il n'y aurait pas de grâce. Mais le Seigneur dit « Je veux que vous me connaissiez comme celui qui est saint, et je veux que vous fassiez l'expérience de celui qui est saint. Laissez-moi être cette personne-là en vous, pour vous, à travers vous. Moi seul suis cette personne-là, mais je veux que l'Église soit remplie de ma personne. Pour cela, je me suis fait connaître à toi, je me fais connaître et je vais faire en sorte que tu deviennes comme moi, pour le dessein de Dieu. » Point B maintenant. Le Seigneur Jésus est le véritable, par qui nous pouvons être véritables, fidèles pour Dieu. Amen. Et là, je voudrais introduire un verset que j'aime beaucoup, mais qui est mystérieux, en tout cas, je pense. C'est dans 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Chapitre 5, verset 20. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné la compréhension pour connaître celui qui est véritable. Et nous sommes dans celui qui est véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est là le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Regardons cela plus en détail. Nous savons. Il y a certaines choses dans lesquelles nous croyons. Simplement, nous croyons. D'autres choses, nous les espérons. Nous espérons être enlevés. Christ en nous, l'espérance de la gloire. D'autres choses encore, il faut qu'on les sache. Dans Jean 14, 20, le Seigneur a dit, en parlant du jour de sa résurrection, il a dit, ce jour-là, vous saurez, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Et là, il est dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné la compréhension, à nous tous. Vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat, vous n'avez pas besoin non plus d'une licence. Vous n'avez pas besoin d'être un artisan qui travaille dur. Vous avez reçu de la part du Fils de Dieu une compréhension, la capacité à comprendre les choses divines, les révélations les plus élevées de la Bible. Vous serez tout à fait capable de les comprendre. Si c'est présenté correctement, et je pose mes yeux sur le Seigneur, pour qu'il me donne cette possibilité de dispenser ces choses clairement. Amen. Nous pouvons connaître celui qui est véritable. Et nous pouvons le connaître, lui, qui est véritable. Le grec peut aussi être traduit, au lieu de véritable, celui qui est vrai. En fait, vous savez, le terme grec dit en plus juste le vrai, le réel, non pas celui qui est vrai réel. Il est, Dieu est le vrai, il est le réel. Amen. Si on passe maintenant au verset 6 du même chapitre, à la fin, il dit que l'Esprit est la réalité. Nous avons reçu une compréhension afin que nous connaissions Dieu comme le vrai, l'être qui est vrai et réel. Et nous devons savoir que nous sommes dans le vrai. Aujourd'hui, nous sommes dans la réalité ultime de l'univers, à savoir Dieu lui-même dans son Fils. Nous sommes en lui. Et après, il y a une apposition. Ça veut dire qu'il y a une égalité. Nous sommes en lui, le Fils Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable, et il est la vie éternelle. Jean nous dit que le vrai Dieu, oui, il est vrai en lui-même, en soi. Le monde est rempli d'athéistes, mais Dieu reste toujours le Dieu vrai et véritable. Mais là, ce verset nous parle de quelque chose d'expérimental qui est dans notre expérience. Il parle que nous allons comprendre et connaître celui qui est véritable. Nous allons connaître le vrai. Et nous sommes dans celui qui est vrai, dans le vrai. Nous sommes dans le vrai, en son Fils Jésus-Christ. Et lui est le vrai. Il est la réalité. Et nous sommes en lui. Cela s'accompagne de quoi? Du point B, le Seigneur Jésus est le véritable. Par qui nous pouvons être véritables, fidèles pour Dieu. Amen. Nous pouvons être vrais, réels, authentiques. J'habite au sud de la Californie, le pays de ce qui n'est pas réel, le pays de l'irréel, qui produit une forme d'irréalité après une autre. Amen. C'est très difficile de rencontrer un autre être humain. Quand vous contactez la personne, vous ressentez une réalité. Mais il y a des coquilles vides, il y a la vanité de vanité. Mais le Seigneur qui est le véritable, et nous rend vrais et réels, et nous rend authentiques. Donc lorsque Jean écrivait sa deuxième épître, et il s'adressait à une sœur mûre et à sa famille, il dit, « Je vous aime tous dans la véracité. » Ça, c'est la réalité divine qui nous rend véritables, vrais, réels. Amen. Et voilà un commentaire sur le mot « sincère ». J'ai étudié le latin un petit peu il y a très longtemps. Mais je me souviens d'avoir appris la chose suivante. Le mot qui était traduit par « sincère » vient du latin. Et voilà l'arrière-plan. Au premier siècle de l'âge actuel, l'industrie du marbre était quelque chose de très important, une grosse industrie. Il y avait des brigands à cette époque-là, comme il y en a encore aujourd'hui. Et il y avait du marbre avec des fêlures. Et ils remplissaient ces fêlures avec de la cire pour cacher. Donc les gens voyaient le marbre, ils le voyaient parfait, sans fêlure, jusqu'au jour où peut-être la cire fondait, et là ils se rendraient compte qu'ils se sont fait tromper. Donc il y avait après des gens formés pour être des inspecteurs du marbre, pour vérifier qu'il n'y avait pas de cire, et que le marbre était vraiment en une pièce complète. Et ils testaient le marbre. Et, et après, quand il va vérifier le marbre, il signe un papier, disait qu'il n'y avait pas de cire, il était sans cire. Et le terme sincère vient de là, sans cire, hein, sans la cire. Mais où pouvons-nous trouver la sincérité, l'authenticité, la réalité aujourd'hui? Amen. Ok, je continue. Petit 1. En tant que le véritable, Christ est vrai et réel, en tout point, à tous égards. Et il sera toujours comme cela avec vous. Amen. Si vous voulez comprendre quelque chose concernant vous-même, vous voulez comprendre pourquoi vous ressentez une chose ou une autre, pourquoi vous réagissez de telle manière, demandez-lui. Et il vous dira la vérité. Amen. Et quand il vous donne la vérité, ce sera dans l'amour qu'il le fait, avec l'amour, avec la grâce. Mais il va vous dire la vérité. Amen. Et jusqu'à un certain point, parce que ce que nous disons aux autres personnes, à chaque fois, il faut que l'on discerne ce qu'ils peuvent recevoir, ce qu'ils sont en mesure de recevoir, n'est-ce pas? Donc, on ne surcharge pas les personnes en leur disant trop de choses. Nous ne devons pas non plus parler, aller à droite, à gauche, en disant des choses qu'on ne devrait pas dire, parce qu'on veut édifier. Mais le ministère authentique doit être sincère, il n'est pas politique, il n'est pas diplomatique. Il est vrai. Ça fait des décennies que dans mon être, j'ai faim, j'ai soif de cette réalité. Amen. 2. Christ est la réalité de l'Église. Sans lui, nous n'avons pas la réalité, mais la vanité. On peut dire cela de nous-mêmes. Nous sommes les membres de l'Église recouvrée, mais seulement Christ est la réalité. Sans lui, nous sommes juste vides, nous sommes vains. On peut dire c'est ce que nous sommes. L'Église recouvrée, le Seigneur va dire oui, c'est plein de vanité. Je veux que mon Église recouvrée soit réelle à tout point de vue, à tous égards, dans tous les aspects. Je veux qu'elle soit authentique, vraie, sincère. Petit 3. La réalité en Jésus est la condition réelle de la vie de Jésus, comme cela est décrit dans les 4 évangiles. L'essence de la vie de Jésus est réalité. Et là, je voudrais lire Éphésiens 4, 21, parce que c'est un autre verset qui a besoin de recevoir, pour lequel on a besoin de la lumière de Dieu pour le comprendre. Dans Éphésiens 4, 17, Paul dit, « Voici donc ce que je dis, et atteste dans le Seigneur, que vous ne marchiez plus comme les nations qui marchent dans la vanité de leur intelligence. » Puis au verset 23, il dit, « Et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. » Mais au verset 20 et 21, il dit, « Mais vous n'avez pas ainsi appris Christ. » Si vous l'avez vraiment entendu et avez été instruit en lui, conformément à la réalité qui est en Jésus. Amen. Il est la seule personne, Jésus, hein, Jésus est mentionné ici, ce qui se réfère à son humanité. Quand vous lisez à nouveau les évangiles avec cette vue-là, regardez ses conversations avec tous, tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est réel. Et il est le vrai. Il sait, il connaît. On peut essayer, moralement, d'être honnête et d'être vrai. Mais ce n'est qu'une tentative de nous améliorer. Mais nous devons vraiment cesser nos vains efforts. Essayez de n'essayez plus de vous améliorer. Aimez juste le Seigneur et laissez-le vivre à travers vous. Il va nous rendre pareil à lui. Point 4. En tant que membres du corps de Christ, nous devrions mener une vie de réalité, puisque la réalité est en Jésus. une vie qui exprime Dieu. Donc le Seigneur veut que son Église soit ainsi. Et ça ne se résume pas au fait d'avoir la bonne position sur le terrain de l'unité. C'est très bien, bien sûr. Mais il dit, je veux être le contenu. Il faut que je sois le contenu de cette Église et la réalité de cette Église. Je suis le saint et je suis le vrai. Je veux que vous me connaissiez. Je veux que vous fassiez l'expérience de moi. Je veux faire de vous quelqu'un de pareil à moi. Vous êtes mon expression, vous m'exprimez et vous devenez la mariée, mon épouse. Voilà le genre de personne que je suis. Alors que dans cette histoire d'amour, le Seigneur est le saint. Il est, et comme son épouse future ne lui correspond pas encore, eh bien, il fait en sorte qu'il y a une transformation qui arrive en nous. Et c'est Dieu qui dit, je vais t'embellir, je vais t'enjoliver pour que tu sois prête pour moi, je vais te sanctifier de moi-même, par moi-même et pour moi-même, je vais te rendre réel, aussi réel que moi je le suis. Et alors, que faisons-nous? Nous nous ouvrons simplement à lui, nous lui donnons accès à notre être, nous lui donnons accès pour qu'il se dispense, nous nous l'aimons, nous nous réjouissons de lui, et après nous voyons le changement. Il n'y a plus du coup, il n'y a plus de semblant, il n'y a plus de semblant. Nous sommes tels que nous sommes et nous sommes authentiques et nous sommes vrais. Nous venons à lui sous son sang précieux et je ne vais pas passer du temps à me regarder moi. Je vais te regarder toi, Seigneur. Continue ton œuvre par laquelle tu te reproduis en moi. Amen. Point C maintenant. Pour l'Église recouvrée, le Seigneur est aussi celui qui a la clé de David. La clé du royaume, ayant l'autorité d'ouvrir et de fermer. Amen. Et une chose qu'il a dite à l'Église recouvrée, il a dit, j'ai posé devant toi une porte qui a été ouverte et que personne ne fermera. Amen. Et je me suis posé la question. De temps en temps, je me pose la question. Il y a quelques années, dans une réunion comme celle-ci, j'ai vraiment libéré un fardeau. C'était en Allemagne. Le Seigneur veut défaire tout ce que l'ennemi a fait en Allemagne. Mais vous savez, je n'ai aucune préférence pour un pays sur un autre. Je n'ai pas de préférence de pays. Mais il y a un tout petit pays qui a été très important pour le Seigneur au moment de la réforme. Et des choses très importantes sont arrivées dans ce pays. Et le Seigneur a vraiment eu un commencement merveilleux dans ce pays-là. Mais l'ennemi, à travers un certain conducteur, a tout de fait. L'ennemi a utilisé ce frère pour défaire et détruire beaucoup de choses. Mais je crois que le temps est arrivé maintenant pour que l'on utilise la clé pour ouvrir la porte de la Suisse, pour que ce petit pays soit rempli de chandeliers. Amen. À Genève, à Lausanne, amen. À Bâle, n'est-ce pas? Quelle autre ville? À Zurich, amen, bien sûr, à Zurich. Et ça, vous savez, ce que je vous dis, ça va se répandre sur toute l'Europe. Nous allons voir dans les points qui suivent, dans cette section aussi, dans ce passage, combien c'est crucial. Et comment ce point-là est lié au recouvrement du Seigneur. Donc, la clé de David, c'est la clé du royaume, c'est au point C. Et la clé signifie l'autorité. Et cette clé, elle ouvre et elle ferme. Amen. Point 1. C'est la clé des trésors de la maison de Dieu, typifiée par la maison de David, pour l'édification du royaume de Dieu. Amen. Donc le Seigneur va utiliser cette clé pour ouvrir les trésors
de l'être même de Dieu pour nous ouvrir ces trésors. Et il va dire, voilà, maintenant j'ouvre le trésor de l'être de Dieu pour que vous en jouissiez et que vous fassiez l'expérience des richesses insondables de Christ. Amen. Et ça, c'est pour l'édification du royaume. Petit A, l'Église est à la fois la maison de Dieu et le royaume de Dieu. Il faut que l'on se rende compte de cela. Certains saints, sans le vouloir vraiment, ils font certains choix, ils sont sélectifs concernant leur vie d'Église. Par exemple, j'aime la famille, j'aime bien la partie familiale de l'Église. C'est tellement agréable. Mais quand on parle du royaume, je ne sais pas quoi penser. L'Église est à la fois la maison de Dieu, la famille de Dieu et le royaume de Dieu, avec l'autorité. Et je ne peux pas passer trop de temps sur ce sujet, mais alors que le Seigneur grandit en nous et qu'il gagne de la place en nous, il doit nous ramener au gouvernement direct sous Dieu, dans notre esprit. Il doit nous ramener au fait à ce que nous soyons gouvernés par Dieu directement dans notre esprit. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Donc l'Église, elle est à la fois la maison et le royaume. Et là, dans ce parti du message, on va vraiment insister sur l'aspect du royaume. Et je réalise que dans beaucoup des églises en Europe sont petites, mais vous savez, ce n'est pas la taille qui compte. C'est votre position qui est importante. Et je crois que cela va vraiment soulever, on peut dire, ou élever notre réunion de prière. Le Seigneur doit élever notre prière pour qu'on ouvre par nos prières Amsterdam, par exemple. Et on pourrait dire, Seigneur, j'ai prié et j'ai utilisé la clé pour ouvrir la ville d'Amsterdam à l'esprit. Et aucun diable, aucun esprit mauvais ne va fermer cette porte. Je l'ai ouverte. Et beaucoup vont entrer dans la maison de Dieu grâce à cette porte, par cette porte. Amen. Petit B. La clé de David sert à garder tous les trésors de la maison de Dieu qui sont toutes les richesses de Christ pour notre réjouissance. Amen. La clé ouvre ces trésors pour nous, pour que notre réjouissance se poursuive et augmente toujours d'un niveau toujours supérieur, pour que nous progressions. Petit C, Christ est celui qui ouvre et ferme l'accès à la trésorerie des richesses de Dieu qui est incorporée en lui. Là, l'accent est mis sur la clé qui nous ouvre à nous les trésors des richesses de Dieu, les richesses insondables de Christ. Le Seigneur voudrait vraiment, tous les jours, à chaque fois que vous venez à lui, que vous utilisiez la clé. Et c'est comme si vous disiez, je voudrais que tu connaisses une certaine partie de moi. J'aimerais bien t'ouvrir l'être de Dieu dans son économie. Il faut que l'on comprenne quelque chose de merveilleux ici. Les expériences les plus profondes avec le Seigneur sont toujours quand vous êtes seul avec lui. Bien sûr, on ne veut pas être extrême, on ne veut pas être concentré sur nous-mêmes. Mais c'est pour cela que nous avons besoin que le Seigneur nous apprenne comment être avec lui, comment nous comporter avec lui, pour ne pas être avec lui comme un rituel. Amen. Nous venons à lui ne sachant pas ce qu'il veut nous montrer. Parfois, vous savez, Dieu, il aime bien nous donner des bonnes surprises et des bénédictions, et il nous ouvre son être. Et nous sommes avec lui, dans sa présence. Donc, sur le sujet d'être dans la présence du Seigneur, voilà un petit témoignage. Il y a quelques décennies, mais il faut apporter les trésors de la trésorerie, que ce soit vieux, ancien ou nouveau. Un matin, je priais. En Sud de la Californie, Californie, vous savez, on peut se balader le matin au milieu du mois de février. Et j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je ne sais pas comment me comporter avec toi. Il faut que tu m'enseignes comment être avec toi. D'abord, tu peux me voir, toi, mais moi, je ne peux pas te voir. » À la fin, j'ai laissé tomber toutes les choses ritualistiques, un petit peu. Ça ne veut pas dire que je vous demande de mettre sur la table, de fermer votre livre du réveil matinal. Non, il faut qu'on soit réveillé le matin, hein, réveillé dans l'esprit. Mais ça fait longtemps, j'apprends à m'ouvrir à lui. Et nous devons l'apprendre aussi, nous devons apprendre à être silencieux devant lui, à le laisser briller. Et ensuite, parfois, vous vous levez le matin et il y a un chant qui s'élève en vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et vous vous dites, mais attendez, j'ai pas le temps de chanter là, parce qu'il faut que je lise le réveil, le livre du réveil matin, j'ai la partie grise là à lire. Non. Mais bien sûr, vous pouvez lire ces parties et ça vous donnera une provision. Mais pourquoi ne pas chanter ce chant? Le Seigneur est en train de chanter en vous. Vous pouvez très bien passer 10 ou 15 minutes juste à vous réjouir de ce chant. Et après, quand vous priez, lisez les versets dans le passage de la parole du matin, vous serez vraiment approvisionné. Parce que le matin, le Seigneur a vraiment besoin d'accéder à notre être, d'un niveau après l'autre, d'un niveau à un autre, toujours. Et vous adressez à lui et vous venez vers lui en étant très à l'aise avec lui. Hein. Vous ne forcez rien. Seigneur, je viens à toi. Je t'ouvre mon être tout entier. Tu me connais. Je te donne l'accès, Seigneur, au tréfonds de mon être. Mais pour certaines personnes, au début surtout, on a peut-être un peu peur, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire le Seigneur? Il veut m'attraper, il va me dire des choses, faire des choses qui ne sont pas sympas. Donc, à cause de cela, ne cherchez pas à imiter quelqu'un d'autre. Dites simplement, Seigneur, je peux seulement t'ouvrir un petit peu mon être, juste un peu. Mais c'est un bon début. Et après, jour après jour, vous vous sentez un peu plus à l'aise. Et vous dites au Seigneur, c'est bon Seigneur, je veux que tu aies accès à mon être tout entier. Tu peux toucher tout ce que tu veux. Tu peux entrer et illuminer dans tous les endroits. Viens, entre, installe-toi comme à la maison dans mon cœur. Vous savez, juste savoir que l'on peut venir au Seigneur tel que vous êtes. N'attendez pas de changer d'humeur. N'attendez pas de vous sentir mieux. L'ennemi est un menteur. Et il va vous dire, ouais, regarde ce que tu viens de faire. Mais tu ne peux pas venir au Seigneur comme ça. Il va t'attraper, il va te montrer les choses. Mais non, ça c'est un mensonge. Il blasphème le Seigneur. Dites-lui, ennemi, tais-toi. Je viens au Seigneur sur la base de son sang précieux. Je vais même tout de suite me rendre immédiatement dans le Saint des Saints, dans mon esprit. Et toi, tu vas à l'étang de feu. Amen. Amen. Juste tel que je suis. Je n'ai aucune autre position et garantie que le sang que tu as versé pour moi. Voilà la position que l'on prend quand on vient au Seigneur. On s'ouvre à lui et on peut le voir et il peut nous voir. Là, on fait un petit virage. La clé de David ouvre l'univers entier pour Dieu. C'est le point 2. Amen. David représente Dieu qui établit le royaume de Dieu sur terre. Et il a la clé de la domination de Dieu. Donc là, il est question de David qui typifie Christ. Au petit point B, maintenant, on a le vrai David. Le David plus grand, hein. Le Nouveau Testament commence avec Jésus-Christ, fils de David. Dans Apocalypse 22, il parle de lui-même comme fils de David. Ça veut dire qu'il est le vrai roi.
En tant que le vrai David, Christ a bâti la maison de Dieu, le vrai temple. Et il a établi le royaume de Dieu, la domination, où il exerce la pleine autorité pour représenter Dieu. Par conséquent, il détient la clé de David. Nous avons tous besoin de voir quelque chose concernant le Jésus ressuscité. Ce qu'il a dit dans Matthieu 28-18, il a dit « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. » Amen.
Amen.
Nous disons « Seigneur Jésus, parce qu'il est le Seigneur, un homme est sur le trône, un homme Dieu gouverne l'univers tout entier. » Amen. Et c'est le vrai David qui a la clé et qui a l'autorité. Il va y avoir des situations qui vont se présenter l'une après l'autre, dans lesquelles il voudra, à travers notre prière, exercer l'autorité sur une situation particulière. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici, parce qu'il faut que les choses soient couvertes et protégées. Mais je réalise, je me rends compte que récemment, certains chers saints souffrent, subissent l'attaque directe et frontale de l'ennemi, d'une manière bien particulière. Et ils le reconnaissent, et nous reconnaissons aussi cela. Donc, maintenant, alors que nous prions à divers niveaux, plusieurs niveaux, il y a la prière au niveau pratique et humain, mais à un niveau spirituel, nous disons à l'ennemi, tu attaques directement, alors nous répondons directement. Parce que la clé de David est avec notre Seigneur et il va exercer cette clé, il va l'utiliser cette clé au travers de l'Église. Nous te lions et nous t'ordonnons de te retirer. Nous te disons que Jésus t'a vaincu et nous accomplissons cette victoire. Enlève tes mains de cette situation. Nous lions ce que les cieux ont lié et nous libérons ce que les cieux ont libéré. Amen. Nous représentons donc, le Seigneur représente Dieu avec son autorité. Et il veut qu'on le connaisse comme tel. Il veut que l'on fasse l'expérience de cette personne, de lui, de ce qu'il est, de cette manière-là. Parce que il dit, je veux t'entraîner, je veux te former comme l'Église recouvrée pour que tu puisses annoncer l'Évangile du Royaume de cette façon. Que vous avez été créés pour exprimer Dieu et pour exercer son autorité qui a été, et pour recouvrer la terre qui a été usurpée par l'ennemi. Et le Seigneur a toute l'autorité sur terre et dans les cieux. Nous n'avons aucune autorité qui nous est propre, mais cela lui fait plaisir d'exercer son autorité à travers ceux qui le représentent, les frères et les sœurs sur terre. Un jour, j'étais dans mon bureau sur le campus de Living Stream et une sœur qui est dans le service. Parmi des sœurs qui servent d'autres personnes, elle est venue à moi avec une question. Elle a dit, nous, les sœurs, pouvons-nous nous engager dans le combat spirituel? J'ai dit, oui, oui, vous êtes des membres du corps. Elle a dit, nous prenons soin d'une sœur maintenant qui a une situation, littéralement, une situation de vie et de mort. Nous pouvons seulement prier. Alors j'ai dit oui, vous avez la position de faire cela, de prier de cette manière, de combattre. Mais il faut que vous soyez couverte. Donc retournez chez toi et ayez l'assurance que vous serez protégée et couverte. Et les sœurs ont prié avec puissance et autorité. Et la sœur qui était
dans une situation difficile, a été sauvée d'une mort imminente et elle a été préservée, gardée pour le Seigneur grâce aux prières de 6 ou 7 sœurs. Amen. Qui étaient dans l'harmonie, des sœurs qui étaient dans l'harmonie. Dans Matthieu 18, on voit que le Seigneur rassemble 2 ou 3 personnes en son nom qui sont dans l'harmonie, qui sont dans le commun accord. Et ces personnes se réunissent, elles ne sont pas en train de plaider le Seigneur. Mais quand on mène à bien son gouvernement, nous ne plaidons pas. Le Seigneur a dit, ce que les cieux ont lié, vous les liez aussi sur terre. Ce que les cieux ont relâché, vous le relâchez sur terre. Parfois, nous prions. Parfois nous prions, Seigneur, lie ton ennemi. Mais le Seigneur il nous répond, je l'ai déjà fait, c'est à vous de lier maintenant. Lions l'ennemi. Nous lions l'ennemi. Nous sommes dans l'harmonie. Nous sommes dans le commun accord. Nous sommes un seul esprit avec une seule âme. L'ennemi est là et nous n'allons pas tolérer cela. Le Seigneur veut que nous lions ce qui a été déjà lié. Alors maintenant, nous lions. Et il y a quelqu'un dans une situation difficile, l'ennemi tient ferme, mais les cieux ont déjà libéré la personne ou la situation. Alors nous allons faire ce que les cieux ont fait. Nous allons libérer. Amen. Et dans Actes, chapitre 12, quand Hérode a commencé à persécuter l'Église, ils ont tué Jacques, le frère de Jean, par l'épée. Cela faisait plaisir aux Juifs. Et après, c'est Pierre qui a été arrêté. Pierre a été arrêté, enchaîné, gardé de tous côtés. Et qu'est-il arrivé? L'Église a prié avec ferveur au Seigneur. Et ce qui s'est passé a beaucoup de sens. Ok, j'y reviendrai peut-être à cause de la chronologie. Mais qu'est-il arrivé? Un ange est venu dans la cellule de Pierre. Il lui a dit, viens, lève-toi, réveille-toi. Et les chaînes sont tombées. On ne sait pas comment. Tous les gardiens étaient endormis. On ne sait pas pourquoi. La porte s'est ouverte. Toutes les portes se sont ouvertes. Et il est sorti. Il était dans la rue. Et il est parti. Et il s'est rendu compte, oh, mais ce n'est pas un rêve, c'est vraiment arrivé. Pourquoi cet ange est-il venu? Il est venu comme ça, de lui-même? Non, c'est les prières qui ont été entendues par le Seigneur dans les cieux. Et il a juste envoyé son ange et il a dit, va dans cette prison, dans cette cellule. Ce n'est pas comme cela que Pierre va finir sa vie. Je t'ai déjà dit qu'il mourra quand il sera mûr, il sera un martyr. Donc maintenant, ce n'est pas le moment et je ne permettrai pas que ça arrive maintenant. Et c'est comme ça qu'on prie. On prie, l'heure n'est pas venue. C'est comme cela qu'on prie. Et après, il se demande, mais où est-ce que je devrais aller? Il va à la maison d'une sœur, la maison de Marie. Parce qu'il savait. Quand tu viens dans cette maison-là, tu viens pour prier. Et tu vas prier jusque dans les cieux. Hein. Amen. Plus tard, dans le même chapitre, Hérode se vante, se glorifie. Personne n'a prié. On ne prie pas hein, que quelqu'un meure. On ne prie jamais ce genre de choses. Mais on peut prier, Seigneur, exerce ton autorité sur ce gouvernement-là. Exerce ton autorité sur cette personne qui est sur le trône. Nous respectons les positions d'autorité que le Seigneur a établies. Mais toi, Seigneur, tu es la plus grande autorité. Voilà la clé dans son fonctionnement. Je ne sais pas pourquoi. Il faut peut-être m'aider à comprendre. Mais il y a un tout petit pays qui s'appelle Liechtenstein. Je ne sais même pas exactement où c'est, mais il est tout petit. Le Seigneur, probablement, a quelques élus hein, au Liechtenstein. Et dans tous les pays d'Europe. On ne veut pas s'amuser avec la clé. Et on ne peut pas prier en utilisant cette clé juste parce que nous sommes enthousiasmés ou excités. Non, non. Nous utilisons cette clé parce qu'elle ferme et elle ouvre les portes qui ont été fermées ouvertes dans les cieux. Il y a des oppositions qui ont besoin d'être fermées.
Nous avons prié à l'église d'Anaheim
à cause du chaos dans le gouvernement.
Et nous avons prié que le Seigneur fasse tout ce qu'il a besoin de faire
avec plein de personnes qui ont du pouvoir maintenant dans la Maison Blanche, etc.
Et il y a deux jours, un des plus grands opposants
dès l'instant où Donald Trump a été élu jusqu'à maintenant,
cette personne a refusé de reconnaître qu'il était président et l'a opposé complètement. Et à l'âge de 68 ans, il est mort. On n'a pas prié pour des choses pareilles, on ne prie pas pour ce genre de choses. Mais ça arrive, c'est réel. Le Seigneur veut son Église recouvrée. Il veut que son Église recouvrée le connaisse, lui, qui est le vrai David et qui a la clé de David. Et il va exercer à travers nous son autorité. Donc, les cieux lient et délient, et nous ne sommes pas dans la présomption en disant « Oh, moi, je vais à droite, à gauche, et je lis et je délie ». Non, non. Ce qui est dans les cieux nous est transmis et accompli à travers nous. C'est pour cela qu'il y a un tel fardeau ici concernant la clé. Je crois que nous sommes au bord d'une ouverture sans précédent dans toute l'Europe et le Royaume-Uni pour l'évangile du royaume, l'évangile élevé. Le Seigneur va nous donner des prières qui vont permettre d'ouvrir plus de pays, plus de villes, plus de campus, plus de maisons, plus de cœurs. Amen. Petit C. Le fait que Christ est la clé de David signifie qu'il est le centre de l'économie de Dieu. Il est celui qui exprime et représente Dieu, celui qui détient la clé pour ouvrir tout dans la domination de Dieu. Amen. Donc, la fin de l'Union soviétique en 1991, ce n'est pas arrivé comme ça par hasard. Est-ce que Dieu l'a fait aussi, unilatéralement? Est-ce qu'il a dit, il s'est dit, bon allez, je crois que l'Union soviétique, c'est fini maintenant. Non, des frères ont prié avec ferveur pendant des années. Ils avaient un fardeau et ils ont utilisé la clé. Et il n'y a pas de limite à cela, à ce que ça peut faire. Le Seigneur, au moyen de l'Église recouvrée, accomplit son dessein, son intention. Point 3. En tant que celui qui a la clé de David et qui ouvre ce que personne ne fermera, le Seigneur a donné à l'Église recouvrée une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Dès l'instant où Frère Lee a déménagé le ministère de Los Angeles jusqu'à Anaheim, et l'église à Anaheim et à Huntington Beach ont été suscitées. Dès cet instant, il y a eu une guerre une guerre a commencé. Il y a eu des attaques, énormément d'attaques pendant des années. Des livres qui nous critiquaient, qui disaient des choses terribles. Des gens et des livres ont essayé de fermer la porte, mais c'était impossible. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis devant nous une porte qui est ouverte. On n'a pas besoin de se battre pour que la porte reste ouverte. Non, parce que cette porte-là, elle ne se ferme, c'est impossible de la fermer. C'est le Seigneur qui l'a ouverte et c'est lui qui en a le contrôle. Je sais, c'est ce qu'il veut faire, je crois. Il veut ouvrir des pays entiers et il va nous conduire à prier. C'est vrai qu'on peut prier selon notre point de vue, mais il va nous conduire en nous donnant une sensation. Je vais avancer. Où? En Grèce? En Italie? Au Portugal? Le Portugal. Je crois que très bientôt, il y aura un chandelier d'or à Lisbonne, au Portugal. Il est temps. Le temps est venu pour Lisbonne, au Portugal. Amen. Je crois que là, on a reçu une certaine impression concernant le pourquoi le Seigneur veut que l'Église recouvrée le connaisse de cette manière et fasse l'expérience de lui de cette manière. Maintenant, nous passons au premier aspect de la récompense aux vainqueurs. Dans Apocalypse, chapitre 3,
Verset 11, 12a. Amen.
À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu.
C'était 12a. Je vais vous poser la question. Comment comprenez-vous cela? Parce qu'il n'y a pas de temple.
Il dit, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu.
Ça fait référence à la Nouvelle-Jérusalem, bien sûr. Mais écoutez, écoutez.
Chapitre 21, verset 22. Jean voit, il voit la scène complète. Et il dit, je n'y vis pas de temple. Alors, comment ça peut être édifié en un temple quand il n'y a pas de temple? Car son temple est le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'Agneau. Donc, vous arrivez maintenant à lier ces deux choses ensemble dans votre tête? Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et le temple de mon Dieu, c'est Dieu. Vous êtes en train d'être bâti en Dieu. Amen. Et le recouvrement du Seigneur a besoin de colonnes. Et certains aspects de ces colonnes sont vitaux. Surtout quand l'ennemi essaye d'attaquer de cette manière et d'une autre manière. Ces colonnes sont absolument inébranlables. Ces colonnes sont immuables. Rien ne peut les ébranler, les changer, les bouger. Dans Hébreux chapitre 12, Paul cite Agé. Et il dit, tout sera ébranlé. Les cieux, la terre, tout ce qui peut être ébranlé le sera. Mais vous avez reçu un royaume inébranlable. Et surtout, concernant pour la sécurité des personnes plus nouvelles, plus jeunes, eh bien, frères et sœurs, il y a des colonnes. Votre être est là. Vous êtes constitué par la vie de résurrection de Dieu et vous êtes sous l'autorité de Dieu. Vous êtes bâti en Dieu. Amen. Le Dieu rédempteur est votre temple et vous êtes une colonne dans ce temple. Vous êtes bâti en Dieu. Et quoi qu'il arrive, rien ne peut vous ébranler. Ça, c'est la stabilité de l'Église. C'est la stabilité du recouvrement. Donc, nous faisons l'expérience d'attaque phénoménale. Nous avons fait une expérience de cela, d'une attaque phénoménale par les réseaux sociaux. Mais rien n'a été ébranlé. Les colonnes n'ont pas été ébranlées. Donc, les colonnes sont devenues la sécurité et la stabilité, même la sécurité, dans leur manière de prendre soin de ceux qui ont été ébranlés parce qu'ils étaient jeunes. Mais les colonnes peuvent les protéger. Mais la vérité ici, sous-jacente, elle est profonde. Nous, qui avant étions morts dans nos transgressions et nos péchés, pouvons être des colonnes bâties en Dieu. Amen. Il faut que l'on soit pareil que Dieu en vie et en nature. Bien sûr, nous ne pouvons pas être Dieu dans la déité. Amen. Maintenant, nous pouvons lire les six points. Le Seigneur fait de nous, le Seigneur Jésus fait de nous des colonnes en nous transformant, c'est-à-dire en éliminant notre élément naturel, amen, et en le remplaçant par son élément divin, amen. Ça, c'est le processus de transformation. Et tristement, tellement de frères et sœurs, chers frères et sœurs, n'ont jamais entendu un message clair sur la transformation de l'âme. Ils sont conduits à croire que tout est inspiré. Vous avez été régénérés en un instant, et quand le Seigneur viendra, en un
c'est en, par un clignement d'œil, tellement rapidement comme un clignement d'œil, le corps sera glorifié. Oui, c'est vrai, mais l'âme n'est pas transformée. L'âme n'est pas transformée de manière instantanée, rapidement. Donc Paul dit dans Romains 12, 2, ne soyez pas façonnés ou conformes à l'âge présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ensuite, dans 2 Corinthiens 3, 18, il dit la chose suivante, à nous tous, mais nous tous, d'un visage dévoilé, contemplant et reflétant le Seigneur, sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Amen. Nous croyons que le Seigneur va nous réunir dans un an. Il y aura beaucoup plus de gloire. Amen. Dans 12 mois, il y aura plus de gloire qu'aujourd'hui. Amen. Mais si les chers saints ne connaissent pas la vérité concernant la transformation de l'âme, toute leur vie, ils resteront dans leur âme, une âme non transformée, dans leur vie naturelle, la pensée, l'émotion, la volonté n'ayant pas été touchées. Donc, quand ils rencontreront le Fils de l'homme, le Seigneur dira, « Mais tu n'es pas mûr, je ne peux pas te donner le règne. Tu n'as pas été sauvé dans la vie. Tu n'as pas appris à régner dans la vie. Tu es complètement dans ta vie naturelle, dans ton âme. Il te faut du temps encore pour mûrir. » Et pour vous donner un exemple de ce que je veux dire, voilà des frères devant moi, tout simple, des saints, des croyants normaux de l'Europe. Que voyez-vous? Vous voyez une expression de moi. Le Seigneur dit, vous voyez, regarde dans ces personnes-là. Tu vois une expression de moi, le Seigneur, dans leur âme transformée. Eux, ils ont vraiment été conformés à mon image et ils sont prêts à régner. Ils sont préparés. Mais toi, et même ces saints, ces croyants desquels le Seigneur parle, ils disent, ah, mais nous ne savions pas cela. Mais dans Jacques dit, pas tout le monde ne peut être un enseignant, parce que ceux qui enseignent seront jugés plus de sévérité. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils savent, hein, qu'ils savent tellement de choses. Mais il faut avoir l'humilité de dire, je ne sais pas ce que ça veut dire. Seigneur m'a donné une version recouvrement. Mais je n'ai pas besoin des notes. Elles n'ont pas besoin de m'expliquer. Je n'ai pas besoin de ces explications-là. Oh, mais la note de bas de page dans 1 Corinthiens 3, 18, oh, je vois quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Donc, il faut que l'on aspire tous et que l'on prie, non seulement pour que nous soyons transformés, mais aussi pour que l'on atteigne la maturité au fil de nos journées. Et c'est pour cela que les colonnes sont nécessaires, parce que l'écoulement de la vie retire l'élément naturel. Oui, naturellement, vous êtes un génie, quoi. Mais c'est inutile. Ce génie est inutile au Seigneur, parce que c'est naturel. Mais le Seigneur vous a fait de cette façon. Il vous a créé de cette manière. Donc, laissez juste votre pensée être renouvelée pour que votre intellect soit ramené en résurrection. Et votre capacité, votre force, votre habileté, quoi qu'elle soit, elle sera amenée en résurrection. Et ça, cela vous solidifie. Ensuite, le Seigneur peut déposer le poids de sa responsabilité sur vous, et ce n'est pas un effort pour vous, ce n'est pas trop dur. Pourquoi? Parce qu'il vous a constitué de lui-même. Amen. Point 1. Le sens du mot « faire » dans Apocalypse 3, 12 signifie « nous constituer en quelque chose »,« nous construire » de manière créative. Donc, si nous sommes ouverts au Seigneur, et nous ressentons le besoin de cela. Seigneur, fais de moi une colonne pour ton intérêt, pour ton avance. Je voudrais être un facteur de stabilité et de sécurité. Je suis prêt à porter le poids de la responsabilité au milieu de tout ce qui va venir. Et personne ne le saura, peut-être visiblement, parce qu'on ne parle pas de ces choses-là, on ne se vante pas, on ne parle pas de ces choses-là. Notre chère sœur Lee, le compagnon, la compagne parfaite pour le frère Lee, elle est allée au Seigneur à l'âge de 95 ans. Et les dernières quelques semaines de sa vie, elle ne mangeait rien. Mais elle était tellement affûtée, on peut dire. Elle a envoyé une requête à une sœur qui s'occupait d'elle. Elle a dit, pourrais-tu demander au frère Ron de venir et de prier avec moi? Des prières de combat. Je suis en train de combattre concernant certains sujets. Et je suis venue auprès d'elle, à son chevet, et nous avons prié. Le Seigneur nous a donné une prière à formuler. Et la voilà, elle était là, 95 ans. Dans les réunions, elle ne dit rien, mais juste sa présence, son existence dans l'Église est une colonne. Juste le fait qu'elle était présente, de la voir avec son visage rayonnant et son sourire, ça vous ravive, ça vous rafraîchit. Le Père apprécie cela, ça c'est dans Matthieu 6. Il faut que l'on fasse l'expérience du Seigneur dans le secret. Il faut que l'on fasse l'expérience du Père dans le secret, de ses profondeurs dans le secret. Et nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Soyons juste ce que nous sommes par la grâce de Dieu. La récompense viendra de la part du Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'être appréciés, nous n'avons pas besoin d'être loués. Nous ne voulons pas avoir un nom pour nous-mêmes. Les gens peuvent nous appeler ce qu'ils veulent, mais nous vivons dans la réalité devant le Seigneur. Et le Seigneur va édifier, va susciter des colonnes dans toute l'Europe pour que l'Église ici soit inébranlable, immuable. Amen. Point 2, dans la vie d'Église aujourd'hui, le Seigneur nous constitue, fait de nous des colonnes dans le temple de Dieu. Le travail du Seigneur dans l'Église consiste à s'œuvrer en nous, nous constituant en colonnes dans le temple de Dieu. Amen. Le travail principal de Dieu, c'est de se travailler en Christ dans notre être. Une fois que j'ai vu cela, ma vie avec le Seigneur a changé. Mon centre a changé. On peut faire beaucoup d'œuvres, mais l'œuvre principale de Dieu, c'est de s'édifier dans mon être. Frère Lee, c'est comme cela, il servait son ministère de cette façon. Seigneur, tu m'as donné aujourd'hui. Aujourd'hui, continue ton œuvre. Bâtis-toi en moi. Pas pour ma propre spiritualité, mais pour l'Église, la maison du Père, le corps de Christ, le nouvel homme, le royaume, la mariée. Amen. B. De Apocalypse 21-23, nous voyons que dans la Nouvelle Jérusalem, le Dieu Trinitaire lui-même sera le temple. Que les vainqueurs soient des colonnes dans le temple signifie qu'ils seront des colonnes dans le Dieu Trinitaire. Est-ce que quelque chose ébranle le Dieu Trinitaire? Croyez-vous qu'il soit inquiet? Croyez-vous qu'il soit nerveux? Mais c'est pour ça qu'il est le Dieu que rien ne peut ébranler, que rien ne peut changer. Et il est bâti en nous, nous serons bâtis en lui. Amen. Petit 2, cela implique le fait d'être mélangé avec le Dieu Trinitaire et d'être constitué de lui. Voilà encore Éphésiens chapitre 3. Seigneur, mélange-toi à nous. Fortifie-moi avec puissance par ton esprit dans mon être intérieur, dans mon homme intérieur, afin que Christ fasse sa demeure dans mon cœur. Fais cela chaque jour, cher Seigneur. Quand vous priez cela pour vous-même, vous mettez à prier cela pour tous les autres. Vous ne critiquez pas. Vous ressentez peut-être un besoin ou une faiblesse. Priez cette prière-là. Père, fortifie cette personne si chère par ton esprit dans l'homme intérieur. Fais ta demeure en lui ou en elle, dans son cœur. Quelle prière? C'est la prière des prières. Et ensuite, les résultats, au fil du temps, vous verrez les résultats. Mais je vous assure, entre maintenant et la fin de cette année, si vous priez de cette manière-là, vous aurez vraiment le sens, la sensation que quelque chose est arrivé dans le, au cours des deux mois et demi derniers. Parce que le Seigneur intensifie son œuvre. Amen. Point C. Même dans la vie d'Église d'aujourd'hui, les saints vainqueurs sont des colonnes dans le Dieu trinitaire. Amen. La vie d'Église d'aujourd'hui, il y a des colonnes, vous savez. Il y a rien qui dit ou qui désigne qui sont des colonnes, mais elles sont là. Les colonnes sont bien présentes. Si vous vous présentez devant les autres en disant « je suis une colonne », ça veut dire que vous n'en êtes pas une. Vous ne cherchez pas à ce que l'attention soit portée sur vous. On a des colonnes comme cela, et on a besoin davantage. Petite. Ces saints ont parfois conscience que l'Église est en fait rien d'autre que le Dieu trinitaire. Comme l'indique les chandeliers en or, en tant que symbole de l'Église. Parfois, on réalise que l'Église, c'est juste le Dieu trinitaire lui-même qui est forgé en nous. Et je suis en train d'être bâti dans ce Dieu trinitaire. Amen. 3. Deux. Les colonnes dans l'Église aujourd'hui sont dans le Dieu trinitaire. Dans l'âge à venir, ces saints vainqueurs seront des colonnes dans le temple de Dieu, qui est Dieu lui-même. Amen. Donc cette promesse faite aux vainqueurs, je ferai de vous des colonnes. Il suffit de vous présenter. Présentez-vous à moi, et moi je ferai le travail. De manière créative, il fera son travail, quel que soit votre tempérament, votre disposition. Le Seigneur dit, je vous comprends tout, je sais tout ce qui vous êtes. Je sais comment faire de chacun une colonne. Frère ou sœur, quel que soit votre âge, vous n'êtes ni tout jeune, ni trop vieux. Le Seigneur est tout à fait capable de faire cela, surtout quand on le touche et qu'on lui dit, Seigneur, fais cela pour l'Église, fais cela pour la mariée, fais cela pour que tu puisses revenir, fais cela en moi. Amen. Ensuite, quelle est notre réalité aujourd'hui? Ce que notre réalité est aujourd'hui sera manifesté au retour du Seigneur quand l'épouse, la mariée, sera manifestée. Nous en ferons partie. Elle sera une personne corporative et nous ferons partie de cette personne corporative. Petit 3. On peut en déduire qu'être fait des colonnes implique le Dieu trinitaire mélangé avec et constitué dans les croyants fidèles. Amen. Pas les croyants capables, pas les croyants puissants, les croyants fidèles. Et Paul, quelque part, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, quelque part, il a exprimé « Puisse le Seigneur me donner la miséricorde d'être fidèle jusqu'au bout. » Amen. Seigneur, dans cette situation aujourd'hui, alors que je vis encore dans la chair, Seigneur, que je vis encore dans l'ancienne création, je ne suis pas encore parvenu. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la miséricorde d'être fidèle jusqu'à la fin. Amen. Dans Apocalypse 17, nous avons une image du Seigneur qui revient avec son armée pour vaincre l'antéchrist. Le Seigneur est celui qui est vainqueur. Et ceux qui sont avec lui sont élus. Ils sont appelés et sont élus. Et ils sont fidèles. Ce sont les fidèles qui seront les vainqueurs. Pas les capables, mais les fidèles. Amen. Nous voulons que le Seigneur soit capable de dire « Bien, bon travail, serviteur fidèle. Je t'ai donné cela, tu y as bien utilisé. » Et le Seigneur attend encore aujourd'hui. Le ministère, à la fin, nous dit cela. Dans la parole, on voit que ceux qui ont un talent, ils ne doivent pas se mesurer contre ceux qui ont deux talents, ou trois talents, ou cinq talents, pardon. Ce sont ceux qui ont un seul talent qui vont faire la plupart de l'œuvre d'édification. Ce sont les croyants ordinaires, des personnes ordinaires que le Seigneur a gagnées. Il a donné une portion à chacun. Mardi dernier, le matin, j'ai eu une bonne surprise dans mon cours que je donnais sur le ministère complet de Christ. Et j'ai demandé à trois frères d'être bénévoles pour donner un message. Je leur ai dit, vous allez prendre mon micro, et on va vous inquiétez pas, vous allez préparer, vous allez être debout. Je regarde l'avenir et je vous vois, vous, ça vous implique, vous. Et les autres, j'ai dit, écrivez en une phrase l'essence de ce que vous avez touché toute la semaine dernière. Après, j'ai dit, je veux juste des bénévoles, uniquement des bénévoles. Et j'espère que 40 ou 50 d'entre vous vont vous lever de vos chaises. Un par un, vous allez lire votre sentence, votre phrase, et que vous allez faire, si vous voulez, un commentaire sur cette phrase. Commençons par les sœurs, 5 sœurs et 5 frères. Comme ça, on va passer de l'un à l'autre. Je pense qu'au moins 50 d'entre eux ont parlé. Et j'ai fait noter, remarquer cela toute la classe. Avez-vous tous été approvisionnés par ce que tous ont dit? Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont tous dit la même chose, enfin, ils ont tous parlé du même point, mais chacun l'a présenté avec sa propre portion, une portion que personne d'autre n'a. Chacun a une mesure de Christ et une mesure de grâce que personne d'autre n'a. Nous pouvons seulement recevoir cette portion-là à travers cette, une personne, à travers toi, personne particulière. Et j'ai été tellement fortifié par dans ce cours, par chacun d'eux. Et le Seigneur attend cela tellement. Oui, certains ont besoin de continuer le ministère à un prix, mais cela, elle aura été mesuré. Mais nous tous avons besoin d'être constitués de cette manière et pour libérer notre portion qui est la nôtre avec fidélité. Nous avons un seul talent. Et vous n'aurez pas à dire, ben, ton talent, je l'ai enterré. Vous allez plutôt dire, Seigneur, tu m'as donné un talent et regarde. Je t'en rends deux maintenant. Vous recevrez la même récompense que ceux qui en avaient 5 de talent ou qui en avaient 2. Mais ce qu'il faut, c'est être fidèle. Et il faut que le Seigneur soit notre fidélité. Je regarde le Seigneur. Je fixe mon regard sur lui. C'est comme cela que l'on finit. C'est un peu comme le football américain. On est peut-être en retard à la mi-temps. Ou il manque encore un point, 2 minutes avant la fin du match. Mais vous avez un bon arrière, un bon ailier. Et aux 2 dernières minutes, il amène à la victoire. Et c'est votre équipe qui gagne. Et l'équipe qui perd dit, wow, on gagnait les 58 premières minutes, mais on a tout raté les 2 dernières minutes. Et nous, on a fait le contraire. Nous, on a vaincu aux 2 dernières minutes. Donc, dites à l'ennemi. Nya, 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 nya. Tu gagnais à la mi-temps. Mais nous, à la fin, c'est nous qui gagnons. Amen. C'est comme ça qu'on finit. La fin, elle est glorieuse. Et la tienne de fin, Satan, elle est déplorable. La nôtre, c'est la Nouvelle Jérusalem. Notre vie conjugale éternelle et toi, ce sera l'étang de feu. Amen. Point D. Vaincre, dont l'Église à Philadelphie revient à retenir ce que nous avons reçu dans le recouvrement du Seigneur jusqu'à la fin. Si nous faisons cela, le Seigneur fera de nous une colonne dans le temple de Dieu. Au verset 11, nous dit dans Apocalypse 3, 11, à cette Église recouvrée, le Seigneur dit « Je viens bientôt ». Et c'est notre prière. Amen. Viens, Seigneur, bientôt. Amen. Priez avec votre voisin. Et il nous restera 25 minutes pour les partages. Souvenez-vous, personne n'a votre portion. Vous avez votre portion qui vous est propre et personne d'autre ne l'a. Où que vous soyez, au milieu, à l'arrière, nous avons besoin de votre portion qui confirme ce message. Priez et ensuite parlez. Amen.